Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes d'amitié et de fraternité en ce samedi 9 octobre 2021. J'ai le plaisir de vous présenter tout de suite le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran est prêt à coopérer avec le Liban dans tous les domaines infrastructurels et à soutenir ce pays, en particulier pour les fournitures alimentaires et médicales, a réitéré le chef de la diplomatie iranienne. La DSA syrienne repousse les missiles israéliens tirés vers T4 à Homs et le président français souhaite refonder les liens entre la France et le continent africain. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. À l'issue de sa visite à Beyrouth, le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé que l'Iran était prêt à coopérer avec le Liban dans tous les domaines infrastructurels et à soutenir ce pays, en particulier pour les fournitures alimentaires et médicales. Rappelant lors d'une conférence presse le vendredi 8 octobre qu'une partie de ses entretiens avec des hommes d'État libanais était axée sur la crise économique au Liban, M. Hossein Amir Abdullahian a souligné que les pays et nations de la région ne permettraient pas aux États-Unis de mener une guerre économique contre le Liban et de l'assiéger. Se référant à l'expédition de carburant iranien vers le Liban, il a déclaré « Le Hezbollah a proposé de recevoir des produits pétroliers d'Iran et le secteur privé y a répondu positivement ». Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que si le gouvernement libanais demandait à l'Iran des produits pétroliers, Téhéran serait encore prêt à les lui fournir. Dans une autre partie de ses propos, M. Amir Abdullahian a fait référence au pourparlers nucléaire et a déclaré que l'Iran reviendrait au pourparlers de Vienne à condition que l'intérêt national de l'Iran et de son peuple soit respecté. Il a également déclaré à propos des récentes évolutions dans les relations entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan. La présence des services de renseignement israéliens en République d'Azerbaïdjan n'est pas dans l'intérêt de ce pays et nous ne permettons pas au régime sioniste de mener des activités d'espionnage à nos portes. M. Amir Abdullahian a pourtant qualifié le régime sioniste de trop petit pour représenter une menace pour l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est aussi exprimé au sujet des pourparlers avec l'Arabie saoudite. Nous avons eu des négociations constructives avec Riyad et des accords ont été conclus sur certaines questions. Ces négociations seraient certes dans l'intérêt de la région. L'Iran et l'Arabie saoudite sont deux pays importants et ont un rôle crucial dans le renforcement de la sécurité régionale, a affirmé le chef de la diplomatie iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé jeudi 7 octobre au Liban dans le cadre de sa première visite en tant que ministre des Affaires étrangères. Il a rencontré de hautes autorités libanaises, dont le président Michel Aoun, le président du Parlement Nabi Perry, le premier ministre Najib Mikati et le ministre des Affaires étrangères Abdullah Bouhabib. Le chef de la diplomatie iranienne a également rencontré le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah. La défense aérienne syrienne a intercepté vendredi soir, 8 octobre, des cibles hostiles dans le ciel de Homs, ont annoncé des sources d'information syriennes. Vendredi soir, le système de défense aérienne de l'armée syrienne a réussi à repousser l'attaque aux missiles israéliennes dans le ciel de la province de Homs. La chaîne de télévision Al-Mayadin a pour sa part confirmé la nouvelle, ajoutant que les défenses aériennes syriennes avaient pu intercepter et détruire la plupart des missiles hostiles autour de l'aéroport de T4 à Homs avant d'atteindre leur cible. Au moins 6 soldats syriens ont été blessés à la suite de frappes aériennes israéliennes sur la base T4, a rapporté Sana, l'agence de presse officielle syrienne. Selon les données préliminaires, Israël a également utilisé ses systèmes de missiles tactiques opérationnels dans l'attaque, dans l'intention de tromper les systèmes de défense aérienne syriens et les systèmes de guerre électronique inconnus qui empêchent les attaques réussies de l'armée israélienne. Il s'agit de l'une des attaques les plus planifiées d'Israël. Au Yémen, les combattants Nasrallah se sont emparés d'une base militaire des forces gouvernementales du pays dans la province de Marib, riche en pétrole, a déclaré un responsable militaire local. Une série d'attaques ont été lancées par les rebelles aussi sur le district de Djouba, dans le sud de Marib, au cours des dernières 24 heures, a déclaré le responsable sous couvert d'anonymat. Les forces armées yéménites ont réussi à avancer sur le terrain et ont pris la base militaire d'Al-Khashina aux mains des forces pro-Hadi, soutenues par les Saoudiens, a-t-il ajouté. Les avions de guerre de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ont mené des frappes aériennes contre les combattants d'Ansarallah stationnés dans et autour de la base militaire d'Al-Khashina. Le bilan de l'attentat suicide dans une mosquée de la ville de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, s'élève à 46 morts et 143 blessés, a confirmé vendredi une source provinciale. L'explosion s'est produite à l'intérieur du bâtiment d'une mosquée chiite dans la capitale de la province Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, vers 14 heures heure locale, alors que les fidèles faisaient la prière du vendredi. Le nombre de morts pourrait encore augmenter car de nombreux blessés sont dans un état critique, a annoncé Matioullah Rouhani de la Direction provinciale de la culture et de l'information. Selon des sources non officielles, environ 60 personnes ont perdu la vie dans l'attaque. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attentat terroriste. Dimanche dernier, 8 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée de Kaboul, revendiquée par les terroristes de Daesh. Alors que le peuple bahreïni continue d'user de sa voix contre la normalisation des relations de Manama avec le régime sioniste, des appels ont été lancés pour un vendredi de colère. La coalition des jeunes de la révolution du 14 février a souligné sur ses pages de réseaux sociaux la nécessité d'activer les mouvements populaires jusqu'à la fermeture de l'ambassade d'Israël à Manama. La vague de protestations à Manama intervient alors que d'autres mouvements dans la région continuent de s'opposer à la normalisation des relations avec Israël. Lors du rassemblement de protestations tenu le vendredi 8 octobre, les Bahreïnis ont condamné l'ouverture de l'ambassade du régime sioniste à Manama et ont exprimé leur solidarité avec les prisonniers politiques ainsi que leur confiance dans leur droit à la liberté. En outre, les habitants des localités de Bouri et d'Al-Marcha ont scandé des slogans contre la normalisation avec Israël et ont souligné la destruction de l'infâme accord et la trahison. La vague de protestations populaires à Bahreïn contre la normalisation avec Israël s'est intensifiée dans le pays lorsque le ministre sioniste des Affaires étrangères a effectué sa visite dans ce pays. En septembre 2020, Bahreïn, avec la médiation du gouvernement américain à l'époque dirigé par Donald Trump, a signé un accord visant à normaliser les relations avec le régime sioniste, établissant officiellement des relations diplomatiques avec Tel Aviv. Le président français Emmanuel Macron a fait une série d'annonces vendredi 7 octobre à Montpellier, où s'est tenu un sommet inédit Afrique-France, sans aucun chef d'État africain, et qui vise à refonder les liens entre la France et le continent africain. Parmi ces annonces figure la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie à hauteur de 30 millions d'euros sur 3 ans, afin de soutenir les acteurs du changement sur le continent africain. Le financement de projets de développement du numérique sur le continent a été également annoncé. Un fonds de 10 millions d'euros de subventions va être mis en place pour accompagner les entreprises innovantes dans le cadre de l'initiative Afrique Digitale. Sur le plan culturel, le président français a annoncé la restitution fin octobre de 26 œuvres d'art pillées au Bénin au 19e siècle. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les terroristes transférés à la frontière nord-ouest iranienne. L'Iran ne reste pas les bras croisés. Le vice-président du bureau politique du commandant général des forces armées iraniennes, le général Rasoul Saneirad, a averti jeudi 7 octobre que la République islamique ne permettrait pas que des pays voisins deviennent le refuge des terroristes, sionistes ou takfiristes. Ce qui est en train de se produire près des frontières du nord-ouest iranien montre que derrière ces événements se cache le régime sioniste et certaines puissances extra-régionales qui cherchent à instrumentaliser nos voisins pour atteindre à leurs objectifs, a dit le général Saneirad en allusion aux tensions récemment survenues entre Téhéran et Bakou. Et il n'est pas le premier responsable militaire iranien à mettre en garde contre le transfert massif de terroristes par la République d'Azerbaïdjan depuis la Syrie vers les zones limitrophes avec le nord-ouest iranien, un acte visiblement contraire au principe de bon voisinage. Sous prétexte d'une deuxième guerre dans le Haut-Karabakh, le gouvernement de Bakou a transféré des centaines de forces terroristes et daéchistes depuis le nord de la Syrie vers les frontières du nord-ouest de l'Iran, et cela avec une implication évidente des services de renseignement turcs. Il est devenu clair que la poursuite du comportement inamical et parfois hostile du gouvernement de Bakou contre les frontières et les intérêts de l'Iran ces dernières semaines découle de stratégies précises auxquelles participent plusieurs pays, en particulier le régime israélien. Pendant la guerre du Haut-Karabakh, l'année dernière, les groupes terroristes ont été formés à l'intérieur de la Syrie avec l'aide des services de renseignement et des forces de sécurité turques, dans le but d'être transférés par la suite vers les territoires azerbaïdjanais. Dans plusieurs cas, ces terroristes et mercenaires étaient délibérément stationnés à très courte distance de la frontière iranienne. Selon l'Institut d'études arméniennes basé en Californie, les groupes qui ont combattu dans la guerre du Karabakh en faveur de l'Azerbaïdjan sont Daesh, Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Front al-Fatah al-Sham, Jaish al-Nukhba, Jaish al-Nasr, l'unité de Sultan Murad ainsi que les divisions d'Al-Hamza et de Suleiman Shah de l'armée nationale syrienne. À noter que d'anciens membres du groupe terroriste Daesh ont quant à eux été recrutés ces dernières années par la Turquie. Après la seconde guerre du Karabakh, le service de renseignement turc MIT a maintenu ses mercenaires et terroristes par procuration dans la région et a transféré leurs familles de Syrie vers la République d'Azerbaïdjan. Outre le fait que cette action peut être interprétée comme des mesures de préparation à de futures batailles, le MIT entend modifier la composition démographique de ces zones évacuées par les forces arméniennes dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu du 10 décembre 2020. Certaines sources rapportent que le MIT a mis en place un bureau à Afrin, dans le nord de la Syrie, pour enregistrer les données des nouveaux membres à transférer vers le Haut-Karabakh. Afrin est sous contrôle turc depuis janvier 2018. Le point important concernant les mesures prises par la Turquie et la République d'Azerbaïdjan depuis un an est que les deux pays continuent de déployer des groupes terroristes, bien qu'ils soient conscients des droits des pays voisins et de leurs inquiétudes liées aux dangers qui menacent aussi bien leurs frontières que les civils, en particulier la République islamique d'Iran, qui ne tolère pas la présence des terroristes si près de ses frontières. Ces actions vont clairement à l'encontre du principe de bon voisinage et amènent la République islamique à être sceptique quant au comportement de ses voisins du Nord-Ouest et à se réserver le droit de prendre toute mesure visant à éliminer définitivement ces menaces.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 8 octobre 2021. Au cours des derniers jours, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a effectué deux déplacements importants en Russie et au Liban. Il s'agissait des premières visites officielles de M. Amir Abdollahian depuis sa nomination à la tête de la diplomatie iranienne. À Moscou, il a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov. Les relations bilatérales, la question de l'Afghanistan, l'avenir de l'accord nucléaire de 2015 et bien entendu les évolutions dans le Caucase du Sud étaient au menu des discussions des ministres iraniens et russes des Affaires étrangères. Au Liban, M. Amir Abdollahian s'est entretenu avec des responsables libanais de haut rang, dont le président Michel Aoun, le président du Parlement, et surtout le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah. Et lors de ces entrevues, le ministre iranien a réitéré le soutien de la République islamique d'Iran au Liban, surtout dans la condition actuelle où le Liban fait face à une grave crise économique. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ces déplacements, les premiers, en effet, du chef de la diplomatie iranienne depuis sa nomination à la tête de la diplomatie de la République islamique, qui avait resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
L'Iran n'hésitera jamais à assurer sa sécurité ainsi que celle de la région, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian, qui est arrivé mardi 5 octobre à Moscou, à l'invitation de son homologue russe, a rencontré mercredi Sergei Lavrov, une rencontre qui a été suivie par une conférence de presse conjointe. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Moscou allaient bientôt examiner la signature d'un accord de coopération stratégique qui servirait du fondement de toute coopération bilatérale à long terme, évoquant le fait que plus de 70% des Iraniens ont été vaccinés contre le Covid-19, Amir Abdollahian a déclaré que les hommes d'affaires iraniens et russes pourraient désormais reprendre leurs activités commerciales, tout comme par le passé. Nous avons discuté de l'essor des coopérations culturelles, touristiques, défensives, politiques et sécuritaires, mais il nous reste encore un long trajet à parcourir pour développer nos relations en matière de commerce et d'économie, a déclaré le haut diplomate iranien, ajoutant que l'Iran et la Russie devraient exploiter leur grande capacité à ce propos. Par ailleurs, lors d'une rencontre avec le président libanais, Michel Aoun, au palais présidentiel, Amir Abdollahian a félicité son homologue libanais à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement libanais et a transmis les salutations chaleureuses du président de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Seyed Ebrahim Raisi. Il a également expliqué au président libanais les positions de l'Iran concernant les développements régionaux et internationaux, l'atmosphère de dialogue entre Téhéran et certains gouvernements étrangers arabes, ainsi que le processus de négociation de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire de 2015. Amir Abdollahian a également souligné les capacités techniques et d'ingénierie de la République islamique d'Iran et a déclaré que l'Iran est prêt à avoir une forte présence dans les projets de développement du Liban.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Beyrouth avec Madame le docteur Adda Hoballa, géopoliticienne et professeure d'université depuis Damas, avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité, Dr. Hoballa.
Alors, en tant que ministre des Affaires étrangères, M. Amir Abdullahian a effectué en effet deux déplacements importants ces derniers jours, deux destinations également importantes, la Russie et le Liban. En Russie, un accord de partenariat stratégique était à l'ordre du jour au menu des discussions, sans oublier bien entendu les évolutions de la région, le Caucase du Sud, et au Liban, bien sûr, l'engagement de la République islamique d'Iran à soutenir le Liban dans ces temps difficiles. Quel premier regard, Maître Develet, portez-vous sur ces déplacements du nouveau chef de la diplomatie iranienne ?
Vous l'avez mentionné, donc c'était les premiers voyages officiels du nouveau chef de la diplomatie de la République islamique d'Iran, et en cela, il est très révélateur que la première escale de cette série de visites soit Moscou, où dans le contexte où les évolutions régionales et internationales progressent de manière très rapide, l'accent a été mis sur un renforcement de la relation bilatérale, avec en toile de fond, bien sûr, la situation économique régionale en Asie occidentale, qui, si elle n'est pas jugulée et prise à bras-le-corps, peut avoir des conséquences sécuritaires et donc de déstabilisation, ce que, bien sûr, ni Moscou ni Téhéran ne souhaitent voir se produire. Et dans ce contexte-là, on peut penser que la fondation de cet accord stratégique pourrait être le pendant de ce que Téhéran a signé avec Pékin à terme, à savoir multiplication des interactions et une synergie toute nouvelle qui aurait cette fois-ci comme théâtre non seulement bien sûr l'Asie occidentale et la façon dont les deux pays peuvent collaborer et travailler ensemble de concert pour apporter et proposer, être une force de proposition pour les autorités libanaises et leur donner des options quant à résoudre cette grave crise économique, mais aussi, et vous l'aviez souligné, concernant les développements dans le Caucase, où les deux pays partagent des intérêts communs extrêmement forts, qui sont avant tout axés sur le besoin de s'assurer que certaines instances internationales ou acteurs non indigènes à la région ne soient pas tentés de procéder à une déstabilisation. Donc, les tensions, bien sûr, avec l'Azerbaïdjan, on en parlera certainement davantage dans l'émission. Puis aussi, bien sûr, la situation en Afghanistan, où il semblerait que déjà, nous soyons confrontés peut-être à l'exportation du terrorisme en provenance de ce pays. Donc, énormément de choses à discuter et je pense que les fondations ont été cristallisées par le biais de la conférence de presse commune. Et dans le contexte de la visite à Beyrouth, effectivement, le chef de la diplomatie iranienne a réitéré l'extension, les propositions que Téhéran est prête à faire pour peu que les autorités libanaises décident que cela va dans leurs intérêts. Et on peut penser qu'en ligne de mire, nous avons cette situation de développement des gisements de gaz naturel où malheureusement la situation actuelle sur les frontières maritimes reste un obstacle considérable et assujetti à beaucoup de pression de la part des États-Unis et de l'État sioniste quant à imposer une version unilatérale qui ne reflète pas les intérêts effectivement de Beyrouth en la matière.
Merci infiniment pour ces précisions, Maître Develet. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Beyrouth Madame le docteur Adda Hoballa, géopoliticienne et professeure d'université. Madame Hoballa, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous et à vos téléspectateurs et téléspectatrices et bonjour à Monsieur Arnaud aussi.
Madame Obadla, alors Maître de Velay l'a rappelé, dans le contexte géopolitique de la région, bien sûr, les évolutions s'accélèrent. Et dans ce cadre, les premières visites officielles du nouveau chef de la diplomatie iranienne ont été effectuées en Russie et à Beyrouth. D'abord, comment expliquer justement ces destinations au moment où justement, près de la frontière de la République islamique d'Iran, en Azerbaïdjan, l'Iran a souligné, a averti à maintes reprises qu'il ne permettra jamais un changement géopolitique de la région, vu justement cette présence sournoise de l'entité sioniste. Et au Liban aussi, là, bien sûr, Maître de Velay l'a rappelé, cette tentative du tandem américano-sioniste d'exercer davantage de pression le Liban, là aussi, M. Amir Abdullahian a justement assuré du plein soutien de la République islamique d'Iran au Liban. Alors, comment analysez-vous, quels sont vos commentaires sur ces nouveaux déplacements en Russie et au Liban, Mme Opalla?
Oui, alors, je ne vais pas reprendre ce que Maître Arnoux a déjà affirmé, puisque je suis tout à fait d'accord avec lui. Par contre, moi, ce que je voudrais souligner, c'est si on peut faire, c'est une forme de lecture, une analyse. Vous avez posé la question entre... ou bien plutôt vous avez soulevé un point concernant ce qui se passe en Azerbaïdjan et la visite justement de Amir Abdullahian au Liban. On pourrait se poser la question, quel est le lien? On pourrait comprendre le lien avec la Russie, puisque la Russie est concernée par la sécurité du Caucase, bien sûr, entre autres aussi l'Iran. Et on sait très bien que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Abdollahian, avait souligné que la Russie est l'une des priorités de l'Iran dans la politique de voisinage du nouveau gouvernement en Iran. Mais le lien avec le Liban, alors, et le fait qu'il y ait une présence des forces israéliennes là-bas, bon, cela pourrait s'expliquer. J'ai une analyse, mais j'ai pas des preuves ou des informations là-dessus. À partir du moment où l'entité sioniste, voire les États-Unis, ont constaté qu'il leur était impossible de stopper ces fameux cargos iraniens pétroliers de venir au Liban. Et donc, que la décision, et donc de facto, il y a une réalité qui s'impose, à savoir que le Hezbollah a réussi à briser l'embargo imposé par les États-Unis, mais aussi à rendre désuète la loi de César, qui imposait justement une forme d'isolement économique, social entre la Syrie, le Liban, etc. Et donc, l'entité sioniste a constaté qu'elle était impuissante de justement mettre un terme ou bien de stopper, selon ses termes, le renforcement de l'influence de l'Iran au sein de la scène politique libanaise. Ni elle peut frapper le Liban, puisque la force de dissuasion du Hezbollah l'en empêche, ni elle peut frapper les cargos iraniens, parce qu'également il y a une force de dissuasion iranienne très forte au niveau maritime. Donc que faire? Je pense qu'ils ont commencé à trouver des cartes régionales, que j'appellerai des cartes géopolitiques, afin justement d'essayer de perturber l'Iran, non pas au Liban, puisque ce n'est plus, ils en sont incapables, mais dans une autre région, et en même temps de frapper d'une pierre à deux coups, c'est-à-dire pourquoi pas ne pas perturber la Russie, pourquoi pas ne pas perturber l'Iran à travers la carte de l'Azerbaïdjan. Donc je crois que c'est le lien qu'on peut voir là-dedans. Maintenant, concernant la visite officielle, je ne sais pas si vous voulez que je parle de la visite officielle d'Amir Abdullahian en Liban.
Bien sûr, allez-y, s'il vous plaît.
Alors, cette visite, d'abord, c'est une visite officielle, comme son nom l'indique, donc c'est d'un pays à un autre. Donc, il y a eu une rencontre hier avec les trois premiers représentants des institutions étatiques, que ce soit le président de la République, le Premier ministre Mikati et bien entendu le président du Parlement qui est Nabih Bereh. Bon. Et donc, toutes les propositions qui émanent du chef de la diplomatie iranienne, qui représente donc l'État, ce sont des propositions de soutien et d'aide d'un État à un autre État et non à un parti. Donc ça, c'est très important. Donc tout accord qui pourra être signé plus tard sera un accord entre deux États. Cette visite, bien entendu, en deuxième lieu, elle renforce l'axe de résistance dans le cadre de la bataille que mène le Liban contre l'occupation israélienne. Car il faut rappeler que les Israéliens sont toujours présents aux hameaux de Sheba. Ils ont provoqué deux guerres israéliennes contre le Liban, dont la deuxième n'a abouti qu'à un cessez-le-feu, et que ce cessez-le-feu n'est pas un accord, c'est plutôt un cessez-le-feu qui a été imposé par une résolution du Conseil de sécurité. Sans compter qu'il y a plusieurs actes d'agression qui ont eu lieu avant 2006, et il y a toujours jusqu'à maintenant des centaines de violations de la souveraineté du Liban. Donc, la visite d'Amir Abdelahian est une visite qui renforce justement la position de toutes les forces politiques qui mènent cette bataille, en premier lieu, bien entendu, la résistance islamique, mais aussi elle renforce l'axe de la résistance dans le sens où elle renforce le Liban dans le cadre de la délimitation des frontières maritimes, comme l'a bien souligné Maître Arnon. Donc, l'enjeu, il faut toujours rappeler que la délimitation des frontières maritimes ne se limite pas en apparence à l'exploitation pétrolière des gisements, mais en réalité, il s'agit de soutenir de la part du Liban une reconnaissance sur le papier des frontières israéliennes maritimes et non pas de frontières palestiniennes, conformément aux cartes historiques sur le Liban et la Palestine. Donc l'enjeu est beaucoup plus important que celui de l'exploitation pétrolière des sites.
Merci.
Et là, on comprend, et juste un dernier point sur ce sujet, et c'est là où on peut comprendre les propos d'Amir Abdelahian lors d'une conférence conjointe avec le ministre des Affaires étrangères libanais quand il a dit que l'Iran ne reconnaît que la Palestine. Donc c'est pour rappeler que justement l'Iran soutiendra la position libanaise concernant la limitation des frontières maritimes face justement à l'entité sioniste. Voilà.
Merci infiniment Madame Opadla pour ces éclairages. Restez avec nous. On va poser justement sur cette carte géopolitique dont disait Madame Opadla de l'Azerbaïdjan utilisée par l'entité sioniste. Maître Develay, donc, lors de sa rencontre avec Sergei Lavrov, M. Amir Abdelahian a en effet exigé que la Russie soit sensible, je cite, à tout changement potentiel des frontières dans la région. Donc, Mme Hopalla l'a rappelé, là, il s'agissait justement pour l'entité sioniste et pour ses alliés d'utiliser cette carte de l'Azerbaïdjan et du Caucase du Sud pour perturber non seulement l'Iran, mais aussi la Russie, et pourquoi pas les relations entre les deux pays. Donc là, il paraît qu'avec justement cet accord de partenariat, ce document de partenariat stratégique, alors il faudrait s'attendre à ce que des évolutions plus importantes et plus sérieuses, des mesures plus sérieuses soient prises justement pour contrer ces complots.
Oui, tout à fait. J'ajouterais d'ailleurs que dans un premier temps, lorsque Raj Soleimani se rendait à Moscou pour discuter d'une possible intervention russe en Syrie, l'argument qui avait été mis en avant à l'époque portait sur le fait que si la Russie ne prenait pas ses responsabilités, ils risquaient eux-mêmes de se retrouver confrontés de manière directe et ceux dans le Caucase à un hydre terroriste qui aurait certainement bénéficié de l'accaparement des ressources de l'État syrien et peut-être même de l'État irakien. On peut imaginer quelque chose, un scénario du pire. Et c'est exactement, quelque part, le même argument qui se pose. À l'exception faite que, comme l'a très bien souligné le docteur Hopalla, Je pense que la stratégie sioniste consiste à essayer de, à l'instar de ce qu'on a pu voir dans la relocation du commandement central américain du golfe Persique plutôt vers la côte occidentale d'Arabie Saoudite, c'est d'éloigner les lignes de front le plus loin possible et ce faisant créer effectivement des foyers d'instabilité qui, l'entité sioniste l'espère en tout cas, permettrait de faire une pierre plusieurs coups. Premièrement, éloigner ce qu'elle perçoit comme étant un étranglement progressif et une suppression de ses options, de ses prérogatives à ses frontières, mais aussi créer effectivement des détournements d'attention ou des foyers de déstabilisation ponctuelle qui seraient de nature à divertir les ressources justement de la Russie et de l'Iran et d'empêcher donc ces deux acteurs régionaux ô combien importants de continuer à, de concert et de manière synergétique, neutraliser toute menace contre la Syrie et les intérêts de la région bien comprise qui concerne l'axe de la résistance. Donc, dans ce contexte-là, vous évoquiez l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, qui, il y a à peine un an de cela, après s'être réarmé, avoir créé une synergie entre son état-major, son état profond, on pourrait dire, et celui de l'entité sioniste, mais aussi avec l'apport du président Erdogan, c'est, si je puis dire, racheter toute une panoplie d'armements, avec des drones israéliens, des soutiens logistiques et aussi des moyens d'opérer des nouveaux systèmes. Et je pense que l'idée, de, je puis dire, pour Tel Aviv et peut-être Ankara aussi, qui a aussi ses ambitions néo-ottomanistes, ne l'oublions pas, dans la région, de travailler de concert pour manipuler le président Aliyev, pour peut-être le laisser penser qu'il peut compter sur le soutien de Tel Aviv et d'Ankara et ce faisant faire ce qu'il veut. Or, il est dans ce contexte précis à relever que ni l'Iran ni Moscou ne toléreront un aventurisme militaire de quelque nature que ce soit.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Madame le Docteur Hopalla. Madame le Docteur, il nous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Donc, vous avez souligné tout à l'heure que justement cette visite contribuerait à renforcer l'axe de la résistance. Dans quelle mesure ces consultations politiques, non seulement avec la Russie, mais aussi et surtout avec le Liban, pourraient en effet déjouer les complots du tandem américano-sioniste et neutraliser leur tentative de créer un nouveau foyer de crise?
Mais ils sont déjà neutralisés. Si vous relisez l'histoire du Liban, le Liban dans les années 30 et dans les années 40 jouait un rôle important dans le conflit israélo-arabe, c'est-à-dire que pour l'entité sioniste, à chaque fois qu'elle voulait imposer quelque chose ou que les États-Unis voulaient imposer quelque chose dans la région, dans leur guerre froide contre l'Union soviétique, bon, c'était courant chez eux de passer à travers le Liban. Bon, après 2006, quand le secrétaire général du Hezbollah a bien souligné dans son discours qu'il s'agit d'une victoire divine, entre guillemets divine, parce que en termes académiques, ça n'existe pas. Mais divine, ça existe en termes géopolitiques, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un repositionnement des forces au niveau régional et local, mais en plus que dorénavant, vous ne pouvez plus utiliser le Liban comme étant un passage direct pour faire passer tous vos objectifs ou exécuter vos stratégies. Et dans ce cadre, on comprend pourquoi ils ont investi dans la Syrie, dans la guerre contre la Syrie, qui est une guerre universelle, puisqu'on a utilisé tout, puisque son financement a été universel. Tous les États arabes, voire également occidentaux, ont financé cette guerre, mais en plus, avec Daesh, le front al-Nusra, etc. Donc, on a utilisé de nouvelles tactiques, de nouveaux outils, afin de pouvoir justement créer un nouvel Moyen-Orient, ce qui également s'est voué à l'échec. Donc, tout le projet des États-Unis et de l'entité sioniste de construire depuis la naissance, entre guillemets naissance, ou depuis l'occupation, depuis l'avènement de l'occupation israélienne, C'est voué à l'échec puisque le fameux projet sioniste n'a pas réussi à voir le jour à cause justement, et son passage pour voir le jour obligatoirement devait passer par le Liban, n'a pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Donc on essaie de trouver quelque chose d'autre. Le Liban, et ça aussi, ce n'est pas seulement le secrétaire général du Hezbollah qui le dit, mais plusieurs responsables politiques libanais le disent, même des forces du bloc du 14 mars, que le Liban n'est plus important, ne représente plus l'une des priorités pour les États-Unis parce qu'ils ne peuvent plus en tirer ou en soutirer quelque chose.
Merci, Madame Opala.
À cause de la présence justement de la résistance islamique.
Madame le docteur Ada Obala, géopoliticienne, professeure d'université, maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. La République islamique d'Iran a prouvé qu'elle est l'allié franc et qui ne délaisse pas ses amis, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyyed Hassan Nasrallah lors d'une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian en visite à Beyrouth. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré lors de cette rencontre la constance de la position iranienne à l'égard du Liban et son soutien sur tous les niveaux. De son côté, le secrétaire général du Hezbollah libanais Seyyed Hassan Nasrallah a remercier la délégation pour l'appui accordé par l'Iran à l'État, au peuple et à la résistance libanaise depuis les dernières décennies et jusqu'aujourd'hui. La République islamique d'Iran a prouvé qu'elle est l'allié franc qui ne délaisse pas ses amis au dépit des circonstances difficiles, a affirmé Seyyed Hassan Nasrallah. Il a affiché de son espoir quant à la sortie du Liban de cette épreuve avec la coopération de toutes les parties. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré également à Beyrouth lors de cette visite le président libanais Michel Aoun. Lors de cette rencontre, il a déclaré que Téhéran se tient toujours aux côtés du Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères a eu également une rencontre avec son homologue libanais et lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de la diplomatie libanaise, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que les entreprises iraniennes sont prêtes à construire 2 centrales électriques pour le Liban en 18 mois seulement. Toujours lors de cette conférence de presse conjointe, Amir Abdollahian a indiqué que nous avons convenu de convoquer le comité économique libano-iranien, notant que l'Iran est totalement prêt à aider le Liban dans divers domaines. La République d'Azerbaïdjan devrait se débarrasser de l'illusion d'acheter la sécurité des étrangers le chef du Conseil stratégique des relations étrangères iraniennes et ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Kamal Kharazi, a invité les responsables azerbaïdjanais à se débarrasser de l'illusion d'acheter la sécurité des forces étrangères, les appelant à s'appuyer sur leur propre peuple. Kharazi a déclaré que l'Azerbaïdjan a un peuple combattant et héroïque qui est capable de maintenir la sécurité de son pays par lui-même, estimant que le recours à des étrangers pour assurer la sécurité est une solution illogique et déraisonnable. Selon lui, les motivations des étrangers, leur but et leurs intérêts sont illégaux et pourraient conduire à une course aux armements dans la région et nuire aux pays hôtes et même les détruire. Quel pays de la région a-t-il pu renforcer sa puissance militaire avec la présence de forces étrangères sur son territoire, de sorte qu'il n'ait plus besoin d'elles, s'est-il interrogé. M. Kharazi a également salué la libération des terres azerbaïdjanaises occupées pendant 30 ans, notant que l'Iran avait conseillé au défunt président azerbaïdjanais Haïdar Aliyev dès le début de renforcer les forces armées de son pays et de libérer ces terres occupées grâce à une coopération logistique et éducative avec l'Iran, mais il a malheureusement refusé l'ordre. En conséquence, l'Azerbaïdjan est devenu plus dépendant des puissances étrangères et a eu recours à des forces étrangères, a-t-il ajouté. Il a souligné que l'Iran est une grande puissance dans la région en raison de son autonomie et de son indépendance vis-à-vis de puissances étrangères, expliquant que le rôle des forces étrangères et d'important plus le pays hôte dépend d'elle. Kharazi a également souligné que l'entité sioniste qui se faufile en Azerbaïdjan a de mauvaises intentions et veut allumer les feux de la guerre dans la région, considérant que le gouvernement actuel en Azerbaïdjan commet une erreur stratégique. L'Arabie saoudite est désormais sur le point d'accepter les conditions d'un Sarala pour mettre fin à la guerre contre le Yémen à tout prix. Après des années de résistance, il contrôle la plupart des régions clés du Yémen, indique le quotidien arabe en ligne Ray al-Yaoum. L'Arabie saoudite a accepté de tenir un dialogue formel avec Ansar Allah à Oman pour mettre fin à la guerre au Yémen. Ansar Allah a appelé l'Arabie saoudite à quitter le Yémen et à ouvrir l'aéroport de Sanaa et le port de Hudaïda, à reconstruire le pays en ruine et à payer les dommages causés par la guerre. Ce sont des questions auxquelles Riyad s'était opposé jusqu'à présent. Mais après sa cuisante défaite au Yémen, ses dirigeants sont désormais sur le point d'accepter ces conditions et veulent à tout prix mettre fin à la guerre. Auparavant, l'Arabie saoudite demandait à Ansar Allah de rompre ses liens avec l'Iran, mais maintenant, Riyad est en train d'envisager et de renforcer ses liens de toutes les manières possibles avec l'Iran, qui négocie avec Riyad, certes, mais à qui ce dernier demande sa médiation auprès d'Ansar Allah. On parle désormais d'éliminer Hadi, président démissionnaire pro-saoudien, de la scène par Riyad, car il n'a pas beaucoup d'options. Il devra accepter les conditions d'Ansar Allah car elle ne pourra plus exercer sa pression par le biais des forces pro-Hadis. Tout porte à croire que le dialogue d'Ansar Allah avec l'Arabie saoudite se fait au détriment du gouvernement de Mansour Hadi et au profit de la résistance yéménite. Ansar Allah, qui a fait preuve de résistance au cours des dernières années, on récoltera les fruits. Le secrétaire général du mouvement Brigade Ahl al-Haq, Cheikh Qais al-Khazali, en Irak, a accusé les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Arabie saoudite, les Émirats et Israël de vouloir dissoudre le Hashd al-Shaabi, la coalition des forces populaires qui combat le groupe terroriste Daesh. Il a déclaré que des centaines de millions de dollars ont été déboursés pour affaiblir le front qui adopte la défense du Hashd al-Shaabi, décrivant la demande de sa dissolution de catastrophique. Le Hashd al-Shaabi a été créé conformément à une fatwa de la Marjaïyat religieuse. Cette fatwa est toujours de vigueur, a-t-il affirmé, estimant que la défense de la parole de la Marjaïa est une bataille. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a émis de son espoir de consolider l'action nationale arabe pour faire face aux prochains défis, soulignant que l'admission par la Syrie de l'acheminement du gaz égyptien au Liban avait eu à partir des positions nationales envers le peuple libanais frère. Dans une interview qu'il a accordée aux deux chaînes de TV, Al-Souria et Al-Ikhbariya, Miqdad a affirmé que la lutte contre le terrorisme se poursuit jusqu'à son éradication, que ce soit à Idlib ou dans la région de Jazira. Miqdad a souligné que l'objectif principal de l'agression contre la Syrie est le changement de la réalité politique, mais la Syrie avait déjoué les plans tramés contre elle. Et Miqdad a assuré que l'ouverture du poste frontière Nasib contribue à l'amélioration de la conjoncture économique en Syrie et en Jordanie. Nous espérons consolider l'action nationale arabe afin de faire face aux futurs défis, a-t-il dit, affirmant que la Syrie ne renoncera à n'importe quelle partie de ce territoire et que les forces d'occupation américaines et turques doivent se retirer des territoires syriens qu'elles occupent. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.